Sur la première, CQFD.
Dans les montagnes du Jura, le chat sauvage, donc Felis silvestris, est menacé par son cousin domestique, Felix catus. C'est ce qui révèle en tout cas une étude menée par les universités de Genève, Zurich et Oxford, une étude publiée dans la revue Evolutionary Applications, Sarah Diron.
Oui, on le croyait disparu, ce chat sauvage, notamment entre 1943 et 1968, on ne l'avait plus vu sur la chaîne jurassienne. Et pour cause, hein, le chat sauvage était victime au 19e et 20e siècle, victime des chasses et déforestations intensives. Alors jusqu'à ce que la loi fédérale dans les années 60 lui permette de recoloniser les forêts jurassiennes. Ainsi, Felis silvestris a commencé à fricoter avec son cousin domestique, deux espèces ou sous-espèces qui peuvent s'hybrider et donner naissance à deux jolis petits chatons hybrides. Sauf que le transfert de gènes appelé introgression profite aux chats domestiques. Les gènes de l'espèce la plus abondante prennent le dessus sur l'espèce rare. Les quelques centaines de chats sauvages ne font donc pas le poids contre le million ou plus de chats domestiques en Suisse, ce qui conduit inéluctablement à l'extinction du chat sauvage. Une extinction rapide, 200 à 300 ans selon les modèles de simulation en bioinformatique réalisés par les chercheurs.
Bonjour Mathias Cura.
Bonjour.
Vous êtes un des auteurs de cette étude. Vous êtes maître d'enseignement de recherche au département de génétique et évolution à l'Institut de génétique et de génomique de l'Université de Genève. Alors, d'abord, on va commencer par le début. Quelle différence y a-t-il entre un chat sauvage et un chat domestique? Ça se voit à l'œil nu ou il faut aller dans les analyses génétiques pour voir les différences?
Alors, c'est très difficile de les différencier. Déjà, c'est très difficile d'apercevoir des chats sauvages. Donc, il s'agit ici du chat sauvage européen, puisqu'il vit dans les forêts. Ils sont très peu nombreux, vous l'avez dit. Et donc, c'est assez difficile de les apercevoir. Et même pour les spécialistes, ensuite, c'est difficile de les reconnaître à l'œil nu, parce qu'ils ressemblent beaucoup aux chats domestiques, particulièrement aux chats tigrés qu'on peut voir ici ou là dans nos rues.
Donc, on peut même pas les distinguer, finalement. Même génétiquement, c'est ce qui se passe en Écosse et en Hongrie.
Alors si justement, donc ce qu'on fait, c'est que on met des bouts de bois dans les zones dans lesquelles ça existe les chats sauvages. Ils viennent avec des senteurs, enfin des odeurs qui les attirent. Ils viennent se frotter à ces bouts de bois et puis ensuite on récupère les poils à partir desquels on peut séquencer de l'ADN. Et à partir de cet ADN, des chercheurs à Zurich ont développé des marqueurs génétiques qui permettent d'identifier l'une ou l'autre des espèces, c'est-à-dire soit le chat sauvage européen, soit le chat domestique.
Alors Sarah Diron l'a dit tout à l'heure, en fait, en cas d'hybridation, en fait, c'est les gènes des chats domestiques qui priment. Comment ça se fait que contre chat sauvage et chat domestique, ça donne pas du 50-50 comme chez les humains?
Alors, ça donne bien du 50-50. Donc, les petits chatons hybrides, ils vont avoir la moitié de leur génome qui vient de chaque espèce. Mais ensuite, ces hybrides vont se reproduire à leur tour avec soit des chats sauvages, soit des chats domestiques. Et puis, il y a deux facteurs qui font que le transfert de gènes, donc cette introgression, va être plus forte chez le chat sauvage que chez le chat domestique. Premièrement, c'est leur nombre relatif. Donc, il y a très peu de chats sauvages. Donc, quelques hybrides parmi les quelques centaines de chats sauvages, ça va être beaucoup plus important que quelques hybrides parmi les centaines de milliers, voire le million de chats domestiques qu'on a en Suisse. Donc, là, on peut dire que c'est négligeable de ce point de vue-là. Et puis, l'autre facteur important, qui est une étude préalable qu'on avait menée aussi avec les mêmes collègues, c'est que le chat sauvage, en recolonisant son ancien territoire, donc et en expansion à la fois territoriale et démographique, et ça, on sait que dans ce cas-là, quand il y a des mélanges avec une autre espèce locale, eh bien, la population, l'espèce en expansion va absorber, si on peut dire, beaucoup plus d'ADN que si elle était stable dans son effectif.
Alors, encore une question de biologie de base, Mathias Cura. Lorsqu'il y a hybridation entre deux espèces ou sous-espèces, souvent la descendance est stérile. Je pense au croisement entre un âne et une jument, ça donne un mulet, le mulet est stérile. Et là, non, les petits chatons mignons ne sont pas stériles.
Alors effectivement, donc il faut savoir que l'hybridation c'est un phénomène naturel. Donc plus on accumule en fait des données génétiques et génomiques, plus on se rend compte que des échanges de gènes entre différentes espèces, eh bien c'est assez fréquent, spécialement chez les plantes par ailleurs. Et donc si ces espèces ne sont relativement proches au niveau de l'évolution, on va dire, eh bien elles peuvent parfois avoir encore des descendants qui sont fertiles ou partiellement fertiles. Donc on a observé toutes les situations dans la nature. Et puis là, pour le chat sauvage et le chat domestique, en fait, on estime que... Alors, le chat domestique qu'on a en Suisse, il n'a pas été domestiqué à partir du chat sauvage européen, enfin, le chat domestique qu'on a en Europe, mais à partir d'une autre souche ou une autre sous-espèce qui est le chat sauvage africain. Et on pense qu'il a été apporté par les Romains. Et donc, leur divergence, elle date de quelques centaines d'années, donc c'est un temps très court à l'échelle de l'évolution. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils puissent toujours avoir des chatons qui sont fertiles.
D'accord. Alors, on va en venir à votre étude, Mathias Cura. Pour votre étude, vous ne vous êtes pas donc baladé dans les forêts jurassiennes à la recherche de chats sauvages, mais vous avez vraiment élaboré un modèle informatique. Quels sont justement les paramètres, les données que vous avez pris en compte dans votre modèle ?
Alors, je me suis personnellement pas baladé dans les forêts jurassiennes, mais ma collègue Béatrice Nussberger, donc qui est co-auteur de l'étude et qui travaille à l'association Wildtierschweiz actuellement, qui recense justement les chats sauvages. Enfin, c'est un de leurs projets. Elle l'a fait, donc c'est elle qui a récolté ces données à la base. Et puis effectivement, avec mes collègues Claudio Kilodran et Juan Montoya de Genève, eh bien on a développé des modèles bioinformatiques pour essayer de reconstruire ce qui s'était passé pendant les 50 dernières années, donc cette recolonisation territoriale du chat sauvage, en faisant varier différents paramètres. Et ça nous a permis d'affiner un modèle qu'on a laissé ensuite tourner pendant 100, 200, 300 ans pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Donc,
Voilà, c'est un modèle extrêmement dynamique.
Ah oui, c'est un modèle très dynamique. Donc, c'est un peu la spécialité des modèles qu'on développe dans mon groupe de recherche. Donc c'est un modèle qui tient compte à la fois des variations démographiques des populations, de leur déplacement dans l'espace, donc de leur migration, du taux d'hybridation, éventuellement de la compétition pour les ressources. Et donc tous ces facteurs ont une influence sur la diversité génétique. Et nous, on a développé des modèles informatiques qui nous permettent d'étudier en fait la diversité génétique attendue en fonction de ces paramètres.
Et puis, vous disiez 200, 300 ans. 300 ans, c'est inéluctable, Mathias Cura. Les chats sauvages vont disparaître, en tout cas génétiquement.
Alors, ça, c'est le cas si ce que prédit notre modèle, si on ne fait rien. Donc, si on reste dans la situation actuelle. Donc, comme je l'ai dit avant, on a affiné le modèle sur les 50 dernières années. Et ensuite, en fixant ces paramètres tels qu'ils sont aujourd'hui, la même surface occupée, les mêmes densités de chats sauvages que ce qui a été estimé, le même taux d'hybridation, on s'attend effectivement à cette issue inéluctable. Mais on a aussi vu que, si dans les conditions un peu plus favorables aux chats sauvages, c'est-à-dire si leur densité continue à croître, ce qui est possible aussi dans le futur, ou si ce chat sauvage a un avantage compétitif sur le chat domestique dans les zones dans lesquels il vit, eh bien, on peut restreindre un peu cette introgression, qui autrement est extrêmement rapide, mais on ne peut pas la stopper. Et le seul moyen de la stopper, c'est effectivement en...
stérilisant ?
Alors,
par exemple, non pas les chats, mais les chattes domestiques, pourquoi ?
Alors, donc, effectivement, le seul modèle qui permet de diminuer, de restreindre, voire de diminuer l'introgression dans le futur, c'est si on arrive à limiter drastiquement l'hybridation entre ces deux espèces. Et... ce qu'on a vu, donc ce qui est intéressant, c'est que dans les données génétiques qu'on a, on a pu voir en fait que on voyait plus souvent de l'introgression de marqueurs transmis de la femelle à ses enfants. Et donc ça signifie que c'est plus souvent les femelles domestiques qui s'accouplent avec des mâles sauvages. Et ça a été corroboré d'ailleurs par des études en Écosse qui montrent que souvent les chats sauvages mâles ou hybrides se mêlent plus souvent dans les fermes que les femelles qui sont plus territoriales.
Ouais, donc, moralité, faites stériliser les chattes domestiques qui vivent près des forêts.
Ou mettre un petit grelot à ces chattes domestiques, ça éviterait qu'elles bouffent les oiseaux.
Ah, ouais.
Et ça ferait peut-être
ça, c'est ça vaut
votre
grand combat.
Les chats sauvages.
Ça va, Sarah. Alors, merci beaucoup, Mathias Cura. Vous êtes un des auteurs de cette étude sur la disparition programmée du chat sauvage, menacé par son cousin domestique. Je rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche au département de génétique et évolution, unité d'anthropologie à l'Institut de génétique et de génomique de l'Université de Genève, et je vous souhaite une excellente journée.
Merci à vous, bonne journée.
De 10h à 11h, CQFD.